Désormais, la couronne de justice. On va profiter un des deux qu'on a dit. On a discuté avec Keith pour savoir ce qui pourrait être intéressant d'aborder ensemble. Et l'idée de ce que fait Dieu nous a bien intéressés. En fait, ce que fait Dieu, c'est assez audacieux. Pas prétentieux, je pense, parce que le Seigneur nous montre dans sa parole ce qu'il fait. Mais audacieux, c'est possible. Et du coup, l'idée, c'était de se restreindre à une partie de la Bible, dans Colossiens. Vous avez vu dans vos petits manuels. Dans Colossiens, on va rester dans cette lettre pendant ces deux jours. Et on va voir comment Dieu nous dit quelque chose de ce qu'il fait, de ce qu'il fait dans le monde, et comment nous répondons à ce qu'il fait dans le monde. Ouvre les yeux de mon cœur, c'est vraiment ce qu'on veut demander au Seigneur, là. J'ai l'habitude des pupitres si petits. Mais... Je vous invite simplement à prier pour faire écho à ce qu'on a chanté. Tout à fait clair, Seigneur, que nous te demandons, en accord avec Paul aux Éphésiens aussi, en accord avec ce que Paul dit aux Colossiens, qu'il est nécessaire que nous prions que nos yeux s'ouvrent, que les yeux de nos cœurs soient illuminés, que nous puissions connaître ta puissance, connaître ce que tu fais. Et nous te demandons, Seigneur, que tu le fasses. Seigneur, c'est avec grande reconnaissance que j'ai pu entendre de nouveau ce matin le début de 2 Timothée 4, qui me rappelle que Paul exhorte Timothée. Il le conjure même devant le Dieu vivant, devant son Christ, qui doit juger les vivants et les morts, de prêcher la parole. C'est avec crainte, Seigneur, que je m'approche de toi maintenant. Je demande qu'alors que j'ouvre ma bouche, tu puisses, toi, Seigneur, parler, et que ta parole jaillisse, que Christ Jésus, ton Fils, jaillisse au travers de ta parole, pour que nous puissions savoir comment marcher avec toi. Nous te demandons, Seigneur, de changer ce qui doit être changé dans nos vies, c'est ce que nous voulons, parce que tu es Dieu. Nous voulons te demander, Seigneur, de conforter ce que tu as déjà semé en nous pour pouvoir vivre d'une manière toujours plus digne de notre vocation en Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Dans vos petits fascicules, vous avez vu qu'il y a écrit « Introduction générale ». Je me suis dit que ça prête pas mal que je dise quelques mots sur l'introduction générale, bien que ce que j'ai dit avant, c'était un peu une introduction générale, mais j'ai fait un peu plus long. C'est pas la cabane au fond du jardin qui m'y a inspiré, mais j'aime beaucoup Cabrel. Ça va peut-être vieux jeu pour certains, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup son dernier album. Il n'y a pas de cabane au fond du jardin dans son album, il s'appelle « Des roses et des orties ». Et je vous relis un texte qu'on entend quand on fait les courses dans les supermarchés, qui vaut la peine d'écouter ça dans son salon, réfléchissant à ce qu'il dit. C'est Chêne Liège. Et je vous lis quelques... Je pourrais tout vous lire, en fait, mais... Donc, il est adossé à Chêne Liège et il dit « En priant, Bouddha, Dieu, que sais-je, est-ce que tu penses un peu à nous ?» On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux ? Êtes-vous là ? Êtes-vous proche ? Ou trop loin pour entendre le son de nos cloches ? Gardez-vous les mains dans les poches ? Ou est-ce vos larmes quand il pleut ? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous, ils s'interrogent ? Des millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux ? Sommes-nous seuls dans cette histoire ? Les seuls à continuer à croire ? Ou regardons-nous vers le bon phare ? Ou le ciel est-il vide ou creux ? Et vers la fin, où êtes-vous dans l'atmosphère ? On vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère que vous m'avez appris le mieux. Cabrel. Oui, on est loin de la cabane au fond du jardin. Je ne peux pas ça pour défendre Cabrel, mais c'est super comme questionnement. Pourquoi ça peut nous accrocher, nous ? Mais parce que avant d'être des croyants, on est des êtres humains qui nous posons ce type de questions. Et le fait d'être croyant ne nous... n'est pas à l'abri de ce type de questionnement, et c'est pas un mal, en fait. Je me suis dit, bon, j'allais vous citer l'ouverture du livre de l'Ecclésiaste, par exemple, qui accepte de se poser ces questions-là dans le cadre de la foi. Vous pourrez le relire peut-être quelque part dans la journée, vanité des vanités, tout passe, les vents tournent, mais tout recommence comme avant. Est-ce que c'est quoi le sens de tout ça? Il se pose cette question-là, l'auteur de l'Ecclésiaste. Mais encore plus marquant, des paroles du psaume 90 que je vous lis là. Pas besoin de le prendre. C'est au milieu de la constatation qu'on est vraiment fragile et on a vraiment du mal à voir les choses. L'auteur du psaume 90 dit « Reviens, Éternel, jusque à quand ?» Et un peu plus loin, « Que ton œuvre paraisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. » C'est Moïse qui a écrit ça. C'est pas un chrétien ou un croyant lambda. C'est Moïse qui a écrit ça. Et il supplie le Seigneur de le montrer, de montrer à ses serviteurs ce qu'il fait, parce que c'est dur dans notre réalité, de savoir toujours ce qu'il fait. Seigneur, on sait que tout appartient, on sait que le monde t'appartient, on le sait, on le croit à ça. Alors Éternel, s'il te plaît, dis-le-nous, qu'est-ce que tu fais dans le monde? Pour nous, c'est la lutte, peut-être pour certains d'entre nous plus que pour d'autres. Est-ce que tout ça, ça va quelque part? Situe-nous, Seigneur, dans ton monde. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs. C'est ce que Moïse prie. Alors, on va voir comment, grâce à l'épître de Paul aux Colossiens, Dieu répond d'une manière lumineuse et glorieuse à cette supplication de Moïse. En Christ son Fils. C'était juste pour qu'on prenne attention à Christ son Fils. Quand je dis Christ son Fils, ça a sonné. En Jésus-Christ son Fils, d'une manière ultime et indépassable, Dieu nous montre ce qu'il fait. Et du coup, si Cabrel veut bien entendre, Dieu répond à sa prière. Et on peut résumer les choses ainsi. Le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu en mission. Donc voici le descriptif. Dans son Fils, il veut réconcilier tout, absolument tout dans le monde, dans l'univers, dans les hommes, dans le monde et l'univers. Deuxième point, c'est que le Dieu de la mission envoie ce qu'il a réconcilié avec lui en mission. Notre réponse. Par l'Évangile, Dieu veut les faire vivre et proclamer Jésus-Christ son Fils. Vous voyez comment c'est deux parties d'un tout. Ce que fait Dieu, comment le Dieu de la mission nous envoie en mission. Et donc le premier volet que je pense qu'il est, on va le voir dans ce texte, que Pierre va nous dire juste, Caillou, c'est ça?
Oui.
J'ai fallu bien, Pierre. Essayons de partir de nos expériences chrétiennes lambda, habituelles. Un jour, après avoir entendu l'Évangile, j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Je sais qu'à la croix, Dieu m'a pardonné. C'est un témoignage lambda. En substance, on l'a tous dit un jour, je l'espère. Et beaucoup de monde, on a entendu beaucoup de monde dire ça, mais en fait, qu'est-ce qui nous arrive quand on dit ça, quand on confesse ça, quand on croit ça, quand l'Évangile nous a atteint, qu'est-ce qui nous arrive? En fait, on va voir que ce qui nous arrive quand le message de l'Évangile nous touche, c'est pas quelque chose de subjectif, de vaporeux et de relativiste. C'est quelque chose de grandiose et de cosmique. Et c'est vraiment le début de la lettre aux Colossiens qui nous montre. Alors on va laisser Pierre nous lire ça. C'est à chaque fois des bons morceaux de l'Écriture qu'on va lire ensemble. On va voir comment la pensée inspirée de Paul fonctionne pour élever nos cœurs. Donc c'est au début de Colossiens, à partir du chapitre 1, verset 1. Et jusqu'à 2, verset 3.
De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, suis devenu le serviteur. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplie dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncez pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous vous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
Merci Pierre. Et jusqu'ici notre lecture de la parole, nous devons demander à Dieu qu'il nous sanctifie par sa parole. Dieu est en mission, et je pense que c'est les versets 19 à 20 qui nous le montrent bien. Car, dit Paul, il a plu à Dieu de faire habiter en Christ son Fils toute plénitude, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ces deux versets nous disent ce que Dieu veut, ce qu'il fait, et comment il le fait. C'est un plan éternel, un plan qui est cosmique, et verset 26, le mystère caché dans tout temps, c'est un mystère qu'il a soigneusement préparé dans les coulisses de l'univers, pour le faire venir à la lumière à un moment donné, décidé par lui. On va voir que cette mission du seul Dieu vivant est vraie. Nous en sommes avec les Colossiens, les bénéficiaires, les objets d'amour. Par l'Évangile, Dieu dévoile sa mission éternelle. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je pense que ça, c'est un résumé possible de cette première partie de Colossiens. Par l'Évangile, Dieu dévoile sa mission éternelle. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et dans les 12 premiers versets, Paul parle plutôt du moyen de la mission de Dieu. Par l'Évangile, Dieu nous a atteints pour une espérance éternelle. Par l'Évangile. Tout d'abord, il montre aux Colossiens comment l'Évangile est tout suffisant pour espérer. Dans un premier élan, on voit que Paul est plein de joie et de reconnaissance. Vous avez noté l'aspect lumineux de ce qu'il dit. Content, plein de reconnaissance, plein d'actions de grâce. Les Colossiens, versets 4 et 5 au début, ont la foi en Christ Jésus. Ils ont un amour débordant pour tous les saints, c'est-à-dire les chrétiens. Pour Paul, pas de doute possible, s'il manifeste ses bons fruits, la foi en Christ et l'amour pour tous les saints, c'est verset 5, à cause de l'espérance que Dieu a déposée en eux. C'est le verset 5 qui nous montre cela. Rien que parce qu'ils ont écouté et cru en l'Évangile, l'espérance de Dieu est en eux. Et ils portent deux fruits visibles qui est une foi persévérante en Christ et un amour persévérant pour les saints. C'est du solide. Rien à rajouter. Rien à enlever. L'Évangile est tout suffisant pour avoir cette espérance. Et au résultat, verset 3, nous rendons grâce à Dieu, dit Paul. Pour lui, c'est un grand sujet de reconnaissance, d'autant plus que ce n'est pas lui qui a apporté l'Évangile. Vous avez vu qui c'est ? Qui est-ce qui a apporté l'Évangile qui sauve et qui donne l'espérance et qui donne la foi et l'amour ? Epaphras, ce n'est pas lui. On va parler plus tard du réseau. Paul est plein de reconnaissance parce qu'ils ont écouté non pas quelqu'un, mais quelque chose que leur disait quelqu'un. Et ce quelque chose, c'est l'Évangile. L'Évangile ne se limite pas à un mode, à une mode ou à une personne en particulier, l'Évangile se propage au-delà du rayon d'action de Paul, déjà dans son vivant. Première pause. Est-ce que, quand on parle de l'Évangile qui sauve, la croix de Jésus-Christ, la condamnation qu'il a portée à notre place, est-ce qu'on est convaincu de cette puissance en soi de l'Évangile pour espérer ? Ou est-ce qu'on pense qu'il y a d'autres choses dont on a besoin ? L'Évangile est tout suffisant pour espérer. Il nous faut alors, si on le croit vraiment, tout faire pour connaître cet Évangile toujours mieux. Pour être capable toujours mieux de le transmettre avec fidélité. Parce que la parole de vérité, vous avez vu que Paul met en son parole de vérité et Évangile dans ces versets, parce que la parole de vérité demande la fidélité pour être bien transmise. On reviendra sur ces notions-là et j'espère qu'on pourra le réinvestir dans le temps d'implication en groupe tout à l'heure. L'Évangile est tout suffisant pour espérer, mais l'Évangile est aussi tout suffisant pour croître, pour grandir. Vous voyez que Paul s'arrête pas là. Il dit « Ok, nouvelle d'Épaphras, Colossiens, c'est bon, je coche la cage, je passe à quelqu'un d'autre, ou ils peuvent passer à quelque chose d'autre. Ils peuvent attendre sagement jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est bon. » Regardez à partir du verset 9. C'est pourquoi, sur la base de tout ce que je viens de dire, de constater par les nouvelles que je reçois d'Épaphras, c'est pourquoi Nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, ce qu'on a un peu chanté, ouvre les yeux de mon cœur, en toute sagesse et intelligence spirituelle, marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point. Autrement dit, tout ne fait que commencer. La preuve, les verbes qui suivent ce verbe marcher dans l'original, et peut-être ta version, Pierre, est pas mal pour nous faire ressentir ça un peu plus fortement que d'autres versions plus anciennes. Tous les verbes qui viennent à la suite de marcher sont soumis à ce verset. On pourrait le traduire comme ça, regardez à partir du verset 10. Marcher d'une manière digne du Seigneur, lui plaisant, c'est des participes, en tout point de vue, portant du fruit en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissant dans la connaissance de Dieu, devenant puissant à tout égard par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient, et même le verset 12, rendant grâce à Dieu. Donc marcher d'une manière digne, c'est aussi rendre grâce à Dieu. Oui, c'est ça, j'avais du mal à trouver parce que je dis n'importe quoi, je m'emporte. Il dit Dieu, mais il dit rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part, verset 12, à l'héritage des saints dans la lumière. C'est encore plus précis. À l'évidence, Dieu le Père est très ambitieux pour nous. La croissance des siens pour qu'ils marchent toujours plus d'une manière digne du Seigneur, c'est pas un détail pour lui. C'est pas juste pour une élite de ceux qui auraient compris. Peut-être ça rejoint ta pub pour
À
fond la forme. Les CBL, c'était forme action. Ouais. C'était la même chose, c'était le même but. J'étais dans les CBL avant.
Avant.
C'est le même but. L'idée. On mange ensemble à midi. On va discuter de ça. Hein? Cette idée que. Il n'est pas question là d'une élite, mais c'est pour tous les chrétiens. Dieu est ambitieux pour chacun de ses enfants. On devrait dire le Père, verset 12, est ambitieux pour chacun de ses enfants. C'est bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est le sens de la prière dans le cœur de ce qu'il dit là au verset 11 de Paul. Devenant puissant à tous égards, comment ? Verset 11. Comment est-ce qu'on devient puissant à tous égards ? Par sa force glorieuse. On devrait dire, par sa force glorieuse. C'est bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, et on a besoin de la puissance du Seigneur en nous pour vivre d'une manière digne de lui. Petite question. Dans ce basculement entre le verset 8 et le verset 9, juste avant, et entre l'espérance qu'ils ont eue au départ et leur croissance maintenant, est-ce que Paul s'est mis à leur proposer un nouvel outil ? En disant, voilà, c'est bon, par l'évangile, vous avez cru, maintenant on fait autre chose. La réponse n'est pas du tout. Paul leur propose, dans un même mouvement, l'évangile comme moyen pour croître. C'est le sens du « c'est pourquoi » verset 9. De la même manière que l'évangile verset 6 porte des fruits et progresse dans le monde entier, eh bien, les Colossiens, verset 10, vont pouvoir porter du fruit, comme l'Évangile, par l'Évangile, pour Christ, pour toutes sortes d'œuvres bonnes et pour croître dans la connaissance du Seigneur. On a commencé par l'Évangile et dans le même mouvement continu par l'Évangile. Et là, on fait une deuxième pause. Attention, méfiance à cette tentation, une fois qu'on est chrétien, de chercher d'autres trucs, d'autres spiritualités supérieures. Cette volonté maladive qu'on a même quand on est chrétien, que l'herbe est peut-être plus verte dans le pré d'à côté. Cette volonté de passer à autre chose ou de changer les termes de l'évangile, parce que tout ça on connaît, il faut forcément dire autre chose. J'ai déjà entendu une prédication de quelqu'un qui ouvre la parole dans l'évangile et qui dit « Je vais vous dire un truc qui n'a jamais été dit sur ce texte. » Mais j'attendais que quelqu'un se lève et dit « En fait, on s'en fiche. C'est pas ça qu'on attend. On attend que tu nous répètes ce que ce texte dit. Attention à la tentation de vouloir passer à autre chose, même après 50 ans de vie chrétienne. L'évangile de Jésus-Christ est pleinement suffisant pour notre espérance. L'évangile de Jésus-Christ est pleinement suffisant pour notre croissance. Verset 6, première partie. Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Autrement dit, l'espérance de l'évangile qui nous vise tous individuellement n'est pas juste locale. C'est ce qu'on disait au tout début. C'est pas juste subjectif. Mon petit Jésus dans mon cœur. L'évangile a atteint les Colossiens comme partout ailleurs. Le réseau qui se répand dans la terre entière. C'est là qu'on commence à prendre la mesure que ce qui nous arrive quand l'évangile nous atteint est quelque chose de bien supérieur à ce qui se passe dans notre cœur. Qu'est-ce qui nous mène au cœur de la mission? On a d'abord eu le moyen de la mission, maintenant on a le cœur de la mission. Le cœur de la mission, c'est Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, son Fils éternel, Dieu nous réconcilie avec lui. On est dans le même mouvement là. Dans l'original, pas y mettre aucune coupure. À partir du verset, on est dans le mouvement du verset 11, 12, 13, verset 14, en qui certaines phrases, certaines versions recommencent. Mais non, on est dans le même mouvement. On va finir par être essoufflé en fait. Mais dans ce même mouvement, Paul ouvre maintenant une fenêtre unique et majestueuse sur Jésus-Christ. Ouvre les yeux de mon cœur. C'est quoi la suite des paroles de ce chant? Je désire te voir. Et voir comment? Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. C'est exactement ce que Paul fait là. Exactement ce qu'il fait. Une suprématie absolue de Christ, déjà dans l'ancienne création. Vous avez remarqué qu'il parle de la création dans ces versets 12, 13 et suivants. La suprématie de Jésus ne date pas d'hier. Et elle n'est pas d'abord liée à la croix. Elle est liée à la croix. Mais elle n'est pas d'abord liée à la croix. Christ est premier parce que Dieu est premier. Christ est glorieux parce que Dieu est glorieux. Et parce que Christ est Dieu, Christ est depuis toujours glorieux. Versets 15 à 17, on les lit ensemble de nouveau. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, et ici dans le verset 15, c'est-à-dire le chef suprême, de toute la création en Dieu son Père. En lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est invisible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Paul, il n'avait pas de PowerPoint, il n'avait pas de voyant lumineux, mais c'est exactement ce qu'il fait dans ce texte. Il dit, voilà, maintenant j'ai dit 15 fois, tout, est-ce que vous pouvez penser qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe ailleurs? La réponse est non. Tout, absolument tout, est sous la suprématie de Christ depuis toujours. Et depuis le début de la création. On est loin du petit Jésus de la crèche, ou du Jésus en chandail cheveux longs qui foule la poussière de Galilée. Vous savez des images d'Hollywood. On est loin de ça. On est loin de ça. Donc une suprématie absolue de Christ sur l'ancienne alliance conduit à une suprématie absolue de Christ sur la nouvelle création. La réconciliation est assurée. Et c'est ce qui assure notre réconciliation. On va voir pourquoi. C'est parce que cette suprématie totale et éternelle sur l'ancienne création, cette ancienne création qui a connu la rupture avec son Créateur, c'est parce que Dieu est premier là-dessus, que Jésus est premier là-dessus, que Jésus reçoit aussi de Dieu la suprématie absolue et éternelle sur la nouvelle création, c'est-à-dire la création réconciliée avec Dieu le Père. Et je pense vraiment que là, on a besoin que nos yeux restent éblouis par ça. Toujours, jusqu'à nos derniers souffles. Nous devons rester émerveillés par la gloire éternelle de Dieu sur la création première et sur la création deuxième, la nouvelle création. La suprématie de Jésus-Christ. Et ce qui frappe à cet endroit, c'est qu'entre le moment où il parle de la création première et de la nouvelle création, eh bien au verset 18, entre les deux créations, Paul parle de l'Église. Regardez le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Paul, si j'avais été toi, peut-être j'aurais pas trouvé des choses comme ça. Pourquoi tu parles de l'Église tout d'un coup? Je ne sais pas trop. Autrement dit, il faut qu'on se pose la question, à la place de dire « Paul, j'aurais pas fait ça », on doit se dire « Pourquoi Paul t'a fait ça ?» Autrement dit, le surgissement de la grâce toute-puissante de Dieu, cette grâce qui sauve, au cœur de la première création, cette première création qui déchue, c'est dans et par l'Église de Jésus-Christ son Fils, que Dieu la manifeste. Tu veux voir ce que Dieu fait dans tout l'ensemble de la création, il faut que tu viennes dans l'Église pour le voir. Parce que dans l'Église qui est son corps, Christ montre sa suprématie sur les deux choses. Et c'est dans l'Église qu'il lui fait naître, grandir, la nouvelle création réconciliée. Ce qui se passe dans l'Église, même si notre Église est petite, même si la louange pourrait être mieux, parce que Jésus-Christ est le chef, Dieu est en train de manifester ça au monde. Quelle gloire! Quel sujet de reconnaissance éternelle! Et quelle assurance! Et il faut qu'on le dise. Est-ce qu'il existe quelque chose de plus solide, de plus efficace à espérer, de plus sûr que ce que Dieu a fait en Christ qui est au-dessus de tout? La réponse, c'est non. En Christ, chef de tout, Dieu garantit notre espérance. Parce que la réconciliation de tout avec lui-même est absolument assurée. Dieu est en mission. Le moyen de sa mission, c'est l'Évangile. Et le cœur de sa mission, c'est Christ. Ça nous conduit à ce dernier volet, les effets de la mission. Parce que tout ça, ça a de l'effet. Ça paraît logique. Et on peut le résumer ainsi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est un privilège d'être au bénéfice de cette réconciliation. Et j'espère que déjà avant qu'on poursuive, on se le dit à soi-même. C'est un privilège d'être au bénéfice de cette réconciliation avec Dieu, en Jésus-Christ, chef de tout. Mais c'est ici qu'intervient une nouvelle surprise, parce que vous voyez que Paul, jusqu'au verset 20, explique ce que Dieu fait en Jésus-Christ son Fils, et on a une surprise, qui commence par deux mots chez moi. C'est quoi le verset 21 au début chez vous? On le redit ensemble, vous aussi, vous, et vous. Et vous. Réconciliation cosmique de tout avec lui-même en Jésus-Christ son chef. Et vous. Et vous, verset 21, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, vos œuvres mauvaises, malheur à celui qui est ennemi de Dieu par ses œuvres et ses pensées mauvaises. Il vous a maintenant réconcilié, même. Il vous a maintenant réconcilié pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Nous, des non-juifs, et on le verra tout à l'heure, ce que ça veut dire être non-juif. Comme les Colossiens étaient des non-juifs, étrangers aux promesses de Dieu, sans sauveur, sans Dieu dans le monde, sans espérance, même nous, Dieu nous intègre avec eux qui croient dans son grand projet de réconciliation. Et ce qui est très intéressant, c'est que le « si » qui suit, ou la condition du verset 23, « si vraiment vous demeurez dans la foi fondée et établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance de... » De quoi ? Merci, plus fort. L'évangile. Loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Ceci, là, vient conforter ce que Paul dit. Paul ne parle pas d'origine ethnique. Il est juif, enfant juif, né dans le peuple juif, ce peuple chéri de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Mais il dit que cet évangile a été prêché à toute la création, à toute créature, juif et non juif. On va voir les conséquences tout à l'heure, mais je m'arrête là pour l'instant. Les amis, il faut qu'on mesure la grâce qui nous est accordée par la réconciliation que Dieu nous donne. C'est pas juste style parce que je le vaux bien L'Oréal. Ça n'a rien à voir avec ça. Déjà, c'est une grâce pour les juifs qui croient. Mais d'autant plus, c'est une grâce pour nous qui n'avions droit encore plus à rien. On était même en dehors de la promesse et de l'alliance que Dieu avait faite. Et c'est ce qui conduit Paul d'une manière au début étrange, mais en fait très éclairante, à parler de son ministère, que c'est un privilège de souffrir pour la cause de la mission éternelle, que c'est un privilège de souffrir pour le glorieux évangile qui est dévoilé. C'est ce qui conduit Paul à la conclusion de cette première partie. Le ministère de l'évangile, à cause de ce qu'il accomplit dans le monde, on vient de le voir, c'est pas rien. Cet évangile est tellement glorieux pour Paul qu'il intègre sans problème les souffrances qui y sont ajoutées. Est-ce que vous avez noté dans Te connaître ce qu'on a chanté ? Vivre de ta vie de résurrection, communier Seigneur à tes souffrances. C'est ce que Paul dit là, dans son ministère. Verset 24, on le lit ensemble. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplie dans ma chair à ce qui manque aux afflictions de Christ pour son corps, qui est de nouveau l'Église. » Alors, ce verset de Paul, il n'est pas en train de dire que la croix de Jésus est insuffisante. C'est du style, il faudrait la compléter parce que moi je fais. C'est pas ce que Paul dit là, hein. Mais son ministère consiste à reprendre le sens de la croix, de l'espérance parfaite qui s'y rattache, et de l'annoncer, de le proclamer au monde entier et dans l'Église. C'est en ça qu'il supplée, qu'il complète ce qui manque. Tout est parfaitement accompli à la croix, mais Dieu suscite Paul pour continuer la croix dans son ministère. Christ accomplit tout dans son corps. Paul proclame Christ à tous les hommes. Verset 25, il annonce pleinement. C'est le même verbe que le verbe qui est utilisé là pour dire « je complète ». Paul explique en fait ce qu'il fait. Il complète en annonçant pleinement ce mystère pour que tout le monde sache que, verset 27, que Christ en vous, les païens, l'espérance de la gloire. Christ a sauvé des individus, et verset 28, Paul les avertit avec acharnement, détermination, en les instruisant, je cite, en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Et ce mot parfait, c'est de nouveau de la même notion que l'idée de compléter. Dieu est ambitieux pour nous, l'œuvre de la croix est parfaite. Et Paul, dans son ministère, veut que l'œuvre de la croix parfaite vise l'accomplissement parfait dans la maturité de ceux qui croient. En résumé, Paul complète dans sa chair ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. Et c'est un privilège, une grâce, de souffrir pour la cause de la mission éternelle. Manifesté dans l'évangile. C'est pas par masochisme. C'est pas parce que Paul lui dit j'aime souffrir. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'il souffre. Paul, il aimerait bien éviter de souffrir. Mais c'est parce que c'est une gloire. Parce que le jeu en vaut la chandelle. Parce que Paul sait ce que Dieu fait. Et il sait que ce que Dieu fait intègre son ministère, même dans les souffrances. L'enjeu est grand, l'enjeu est éternel, l'enjeu est glorieux. L'enjeu est à la mesure de la gloire et de la souffrance de Christ. Si tu comprends la gloire et de la souffrance de Christ, tu vas comprendre comment c'est un privilège de souffrir pour la gloire de Dieu. Paul montre bien cela au début du chapitre 2. Sans transition, il dit « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat. » Le mot là, combat, c'est l'agonie. Même racine. Comment je l'agonise ? Pour vous et pour ceux de la Odyssée. Ce que je viens de dire, ça s'applique sur vous. Par amour pour l'évangile de Jésus-Christ. Il est le serviteur de l'évangile. Il souffre pour l'évangile. Et l'évangile, c'est Christ. Christ, c'est la gloire, la richesse et la sagesse, je le cite là, de Dieu. Dans l'évangile, quand l'évangile a touché notre cœur, c'est vraiment Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est pas rien, c'est cosmique. Comment ça pourrait être autrement dans le Fils éternel de Dieu ? Quelques mots de conclusion. Le petit peuple de l'espérance glorieuse au milieu des non-atteints par l'Évangile. Avant de savoir ou de se comprendre en mission nous-mêmes, il est nécessaire de réaliser comment nous sommes avant tout les objets de la mission que Dieu s'est fixée. Nous sommes les objets d'amour de Dieu. Dieu est en mission et son but, c'est nous dans le projet de réconciliation. Parce que ce même évangile, verset 6, porte du fruit parmi vous, les Colossiens, mais aussi aux extrémités de la terre, au bout du temps et de l'histoire, y compris ceux qui viennent à part en Bessin, quelque part plus tard. Parce que si c'était bon pour les Colossiens, c'est aussi bon pour nous, un peu plus tard. Parce que si c'est bon pour nous, c'est aussi bon pour chacun et chacune de nos contemporains, de nos amis, des membres de notre famille qui ne sont pas encore atteints par l'Évangile. C'est aussi bon pour nos collègues, c'est aussi bon pour mon voisin de palier, pour le vieux monsieur qui balade son chien une fois par jour dans la rue, pour la boulangère, c'est aussi bon pour eux. Parce que si je m'abuse, ces personnes que je viens de citer, peut-être vous avez la suite de la liste, j'espère, ils sont dans le même cosmos, dans le même monde que Dieu a l'intention de réconcilier avec lui-même, en Christ, par le sang de la croix. Si Dieu nous a réconciliés avec lui, dans tout le cosmos entier, par la foi en l'Évangile, cette promesse, cette espérance, est aussi pour eux. Aussi faut-il qu'ils entendent l'Évangile. Aussi faut-il qu'ils entendent l'Évangile. On va prendre un temps de partage en groupe, mais avant, tu présenteras ça. Mais avant ma prière. Je vous invite à un temps de silence avant ce temps de prière, de rester sur la fin de ce verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Un mystère caché depuis tous les temps, caché même aux autorités, au pouvoir, caché dans tes coulisses, Seigneur, Dieu éternel, dans ton plan parfait. Un mystère caché même auprès de tes serviteurs qui te suppliaient dans l'ancienne alliance, dans la bouche de Moïse, montre ton œuvre à tes serviteurs. Merci de nous montrer ce matin comment en Christ, par l'Évangile et par le ministère de l'Évangile, tu dévoiles ce que tu fais dans le monde. Seigneur, nous sommes touchés, d'autant plus que ce projet cosmique, parce que tout le cosmos, l'univers t'appartient, nous sommes tellement touchés que tu veux nous atteindre. Tu nous as insérés dans ton plan par la foi. Seigneur, nous voulons nous remettre à toi, te demandant que tu ouvres les yeux de nos cœurs, pas juste là maintenant, mais que l'on ait les yeux ouverts sur toi, sur Jésus-Christ ton Fils, assis à ta droite. Et que cela ait de l'impulsion dans tout ce que nous faisons. Parce que Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est en son nom que nous te prions, Seigneur.
Etienne, pour pouvoir